cette toute deuxième édition du Sportif de Salon. Ici Nicolas Sella et cette semaine, je vous ai concocté un show relativement rempli. Au menu, on va commencer par parler de Ligue nationale de hockey, plus précisément du Canadien de Montréal. On sait que le Canadien cette semaine a fait beaucoup de changements de personnel, donc je vais commenter les décisions de Marc Bergevin concernant des joueurs comme René Bourque et Travis Moen, et je vais donner mon opinion sur ce sujet. Par la suite, comme à l'habitude, je vais faire mon tour d'horizon de la Ligue, les grandes lignes de ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours dans la Ligue nationale et ce qui nous attend pour les semaines à venir. Deuxièmement, dans le show, j'ai prévu une chronique concernant les bagarres dans le hockey. Je sais que ça fait beaucoup jaser parmi les analystes. Est-ce qu'on doit les abolir? Est-ce qu'on doit les conserver? Donc, je vais donner mon opinion là-dessus. C'est un sujet qui est un peu plus présent présentement et encore avec ce qui s'est passé hier avec Connor McDavid. J'ai l'intention de donner mon avis sur ce sujet. Par la suite, je vais faire un tour d'horizon de la NFL. Je n'ai pas parlé de football la semaine passée, donc j'aimerais ça mettre beaucoup d'emphase là-dessus cette semaine. Je vais faire un bilan de ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Je vais donner mon point de vue sur c'est qui les équipes en force, c'est qui les équipes à oublier, puis ça va nous permettre de savoir à quoi s'attendre d'ici le dernier droit de la saison régulière. Après ça, je vais vous parler de boxe. Je vais faire un retour sur le combat qui s'est passé samedi entre Bernard Hopkins et Sergei Kovalev. Je vais aussi parler de l'avenir de Jean-Pascal et de Lucien Bouteux et de la boxe au Québec en général. Finalement, je vais conclure le show avec une section soccer. Je vais faire un tour des différentes ligues majeures en Europe. Je vais parler de la Ligue des champions et je vais parler des qualifications pour l'Euro 2016 qui sont amorcées depuis quelques temps. Donc, restez à l'antenne, ça devrait être un bon show, j'espère que vous allez apprécier. Et commençons ça dès maintenant.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Commençons l'émission de cette semaine avec une bonne nouvelle. Depuis quelques jours, le Sportif de Salon est maintenant rendu disponible sur iTunes. Je suis vraiment content de ça parce que iTunes, c'est une des plus grandes bibliothèques de podcasts au monde, mais c'est aussi un des logiciels les plus téléchargés partout sur la planète. Donc, ça va me permettre d'avoir accès à un plus large auditoire pour mon émission, mais pour vous, les personnes qui écoutent, ça va être aussi plus facile d'avoir accès au contenu que je diffuse chaque semaine. Si vous êtes des utilisateurs d'iTunes et que vous avez une connexion Internet, vous avez tout simplement à vous rendre sur le iTunes Store, dans votre logiciel iTunes, et dans l'onglet Rechercher, vous tapez le sportif de salon ou mon nom à moi, Nicolas Sella. En faisant ça, ça va vous apporter sur une page personnalisée par iTunes pour mon émission avec l'entièreté de mes podcasts de la série Le sportif de salon. Également, sur cette page-là, il y a une fonction abonnement. En cliquant là-dessus, ce que ça fait, c'est que dès que je publie du contenu sur iTunes, il se télécharge automatiquement dans votre ordinateur. Donc, vous avez pu, chaque semaine, aller chercher épisode par épisode. Votre ordinateur va le faire automatiquement, puis ça va se rajouter avec le reste de votre bibliothèque. Donc, j'espère que vous allez vous abonner en grand nombre au podcast Le Sportif de Salon et que vous allez continuer d'écouter semaine après semaine ce que j'ai à dire sur le monde du sport. Commençons maintenant en parlant de la Ligue nationale et du Canadien et des récents mouvements effectués par Marc Bergevin chez le Canadien de Montréal. D'après moi, Marc Bergevin a écouté la première édition du Sportif de Salon la semaine passée parce que j'ai critiqué en début d'émission le travail de René Bourque et de Travis Moen depuis le début de la saison. On apprend d'ailleurs en début de semaine que Marc Bergevin a décidé de renvoyer René Bourque dans les mineurs. Lui qui a été réclamé par aucune des 29 autres équipes s'alignera donc avec les Bulldogs d'Hamilton pour les prochains jours. Excellente décision de la part de Marc Bergevin parce que malgré quelques flashs intéressants comme en série l'an passé, René Bourque, depuis son arrivée à Montréal, n'a jamais rempli les chaussures qu'on lui avait confiées. On lui avait demandé d'un bon joueur de troisième trio, d'amener de la vitesse, de marquer des buts et d'être physique, puis je pense qu'il l'a fait sur une base trop irrégulière, donc c'est une excellente décision de Marc Bergevin de rétrograder à Hamilton. Bourque est le premier à l'avouer, après son aller à Hamilton, il a affirmé dans les médias que c'était à lui de travailler plus fort et de changer son attitude afin de revenir dans le grand club. Également, hier, on apprenait que Travis Moen avait été transigé au Stars de Dallas en retour du vétéran défenseur de 40 ans, Sergei Gonchar. Plusieurs se disent, Sergei Gonchar, 40 ans, c'est plus long de lui-même. On est très loin de ses saisons de 60 points à Pittsburgh, là où il a gagné la Coupe cette année. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une bonne transaction pour le Canadien de Montréal. Si on parle niveau salaire, Sergei Gonchar, en ce moment, il est payé 5 millions par année, ce qui peut sembler beaucoup. Mais il faut comprendre que les Stars de Dallas, dans la transaction, conservent 8% du salaire de Sergei Gonchar, c'est-à-dire 400 000 $. Donc, sur la masse salariale du Canadien de Montréal, Sergei Gonchar compte pour 4,6 millions. On a les moyens de le payer, et surtout, le point positif de cette transaction-là, c'est que Sergei Gonchar, il tombe agent libre à la fin de la présente saison. Donc, à la fin de la saison régulière, on va le remercier de ses services, et on va pouvoir garder plus d'argent pour négocier avec le reste de nos joueurs. Travis Bowen, lui, commande un salaire de 1 850 000 $ par année, mais avait un contrat valide pour l'an prochain également. Et jamais Travis Bowen aurait pu percer la Ligue du Canadien la saison prochaine. Donc, on se libère d'un fardeau salarial l'an prochain en prenant un plus élevé cette année. Si on parle uniquement de Gonchar sur la patinoire, ce qu'il peut apporter au Canadien, ben c'est simple, c'est un travail de l'expérience, mais un travail primordial pour la deuxième vague d'avantages numériques. Je pense qu'il a prouvé dans sa carrière, puis malgré le fait qu'il est vieillissant, il est encore un bon joueur avec la rondelle, puis au sommet de sa carrière, ça a été un défenseur redoutable sur l'avantage numérique. Donc, ça va également permettre aux Canadiens de retirer Tom Gilbert, qui fait un travail exécrable sur l'avantage numérique, et de mettre un joueur avec qui on a la confiance, qui peut prendre un bon lancer, peut faire une bonne passe, et qui a l'habitude de ce genre de situation de jeu. Gilbert va pouvoir se concentrer sur son jeu à 5 contre 5, je pense que ça va être amplement pour lui, parce qu'il en arrache énormément depuis les dernières semaines. Donc, Sergei Gonchar, bonne acquisition pour le Canadien de Montréal. Travis Moen n'avait plus sa place, puis je pense que ça va libérer la place pour des jeunes comme Michael Bonival puis Yeri Sekac, comme je mentionnais la semaine passée. Ces gars-là méritent amplement de jouer sur une base régulière avec l'organisation. Puis Sekac l'a démontré d'ailleurs depuis son arrivée, fait produire l'Arcelor, ce qui est quand même difficile. L'Arcelor, un joueur très inconstant depuis son arrivée avec le Canadien, mais je pense que les deux semblent avoir une bonne chimie. Puis ça peut être intéressant pour les matchs à venir, ce duo-là, Larcella et Yeri Sekac sur le troisième trio. Donc ça va être à surveiller pour les matchs à suivre, mais présentement, c'est déjà mieux que ce que Bourque offrait, puisque Mowen offrait dans la formation. Parlons maintenant du reste de la Ligue nationale. Plus tôt cette semaine, on a annoncé les trois étoiles de la semaine dans le circuit Batman. La troisième étoile, c'était Vladimir Tarasenko. Le jeune joueur des Blues qui ne cesse d'impressionner depuis le début de la saison. Encore hier, un match complet, je pense, à 2-3 points. Mais Tarasenko nous montre l'étendue de son talent depuis le début de la saison. Comme il l'a fait par ailleurs dans le match contre les Rangers la semaine passée, en offrant, selon moi, le plus beau but depuis le début de la campagne, en passant au travers de la défensive des Rangers de New York comme il l'a fait, et avec une frappe magistrale pour venir jouer comme Talbot. C'est une séquence qu'on n'a pas fini d'avoir dans les différents top 10 concernant la Ligue nationale. Deuxième étoile de la semaine, le gardien de but des Sénateurs d'Ottawa, Craig Anderson, qui a connu une très bonne semaine avec deux victoires et une défaite en supplémentaire. Il a conservé une très bonne moyenne de points 981 dans le pourcentage d'arrêt et 0,65 buts accordés en moyenne sur cette période. Je pense que Craig Anderson, c'est un gardien de but d'expérience dans la Ligue nationale. Il est établi. Comme le reste de l'équipe d'Ottawa, il a connu sa part de haut, sa part de bas dans les dernières saisons. Mais je pense que ça reste un gardien de but fiable sur qui les Sénateurs peuvent compter soir après soir. Bonne semaine pour le gardien de but des Sénateurs d'Ottawa. Première étoile de la semaine, j'en ai parlé la semaine passée à quel point je trouvais que c'était un défenseur sous-estimé, un défenseur talentueux. C'est Mark Giordano qui est maintenant rendu à 19 points en 17 matchs. C'est plus d'un point par match pour un défenseur, c'est impressionnant. Mais pour un gars comme Giordano qui passe souvent dans l'ombre des projecteurs, je pense que ce gars-là est en train de prouver à tout le monde que c'est un défenseur de premier plan dans la Ligue nationale, un superstar. Puis je suis le premier, après l'avoir vu jouer contre le Canadien, je suis le premier à dire que ce gars-là est bourré de talent puis que c'est un défenseur numéro un dans n'importe quelle des équipes de la Ligue nationale. Mark Giordano continue comme ça, sérieusement. 19 points, dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue, attaquant et défenseur inclus. Sérieusement, Bob Hartley... très bel as dans sa manche, puis Amar Giordano. Puis on espère qu'il va continuer à ce rythme-là parce qu'il nous offre du très beau hockey depuis le début de la saison. J'aimerais maintenant parler des bagarres dans le hockey. Je vous mets en contexte pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. C'est parce que hier soir, le meilleur espoir d'hockey junior au pays, Connor McDavid, a décidé de jeter les gants avec un adversaire qui était sur son dos depuis une partie de la rencontre. La bagarre s'est passée, McDavid est expulsé pour avoir retiré le casque de son adversaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Connor McDavid s'est fracturé l'os de la main droite dans l'altercation. Plusieurs analystes se sont exprimés en disant que ça n'a pas de bon sens qu'on laisse le meilleur joueur au pays jeter les gants. Il vient peut-être de perdre sa chance de participer au championnat du monde junior. Le Canada perd son meilleur joueur. Je suis d'accord. Comme son coach l'a indiqué après la partie, Connor McDavid a 17 ans. C'est le meilleur joueur au pays. Il a les meilleures statistiques que Sidney Crosby à pareil âge. Le gars, les équipes se mettent à 2-3 pour le surveiller sur la patinoire. Un jeune homme de 17 ans en a assez, veut régler ses comptes et c'est totalement normal. Connor McDavid ne serait pas blessé hier et on n'en aurait pas parlé. Aujourd'hui, ça faisait la première manchette à TSN, la blessure de Connor McDavid, tout simplement parce que malheureusement, Connor McDavid s'est retrouvé avec une blessure suite à ce combat-là. Si j'y vois dans un contexte plus large, je pense que les bagarres dans le hockey, c'est encore sa place. Comme hier, même si c'est malheureux ce qui s'est passé. Parfois, les joueurs, ils en ont assez, puis ils doivent répondre en homme de leur agissement ou ils doivent évacuer une frustration qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Le hockey, c'est un sport physique, il y a des mises en échec, il y a des coups de hockey, c'est un sport où on est beaucoup appelé à travailler sur nos adversaires, c'est du corps à corps. Je pense qu'au bout d'un certain temps, c'est normal que des joueurs veulent évacuer ce surplus de rage-là et décident d'en venir au coup. Je suis d'accord que les bagarres planifiées, c'est pas ce que le hockey, la Ligue nationale d'aujourd'hui veut vendre au public. On n'est plus en faveur des goons qui s'attendent à la mise au jeu, qui se tapent sur les pads puis qui dropent les gants. Mais je pense que dans le feu de l'action, on ne peut pas les retirer parce que sinon, ça laisserait place à plus de coups salauds, plus de coups d'hockey, plus de dardage, plus de pénalités, parce que peu importe, si on enlève les bagarres, les joueurs vont quand même avoir besoin d'évacuer cette frustration-là. Fait que je pense que s'ils sont bien entourés, bien gérés, avec des règlements relativement clairs, les bagarres ont encore leur place dans la Ligue nationale. Je parle de règlements clairs parce que à ce temps maintenant, quand les joueurs décident de jeter les gants, des fois les arbitres interviennent avant un échange de coups soit porté. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça parce que, premièrement, la ligne n'est pas précise entre quand les arbitres ont le droit de laisser les joueurs se battre et quand les joueurs doivent être séparés. Et deuxièmement, une fois que les gants sont jetés, c'est les joueurs qui ont l'air de vrais fous sur la patinoire en se regardant, plus de gants, prêts à se battre, puis ils se font retenir par des officiels. Je pense qu'une fois que les gants sont jetés, on pourrait implanter une plus grande pénalité si le joueur n'a pas respecté un certain règlement clairement établi. Mais une fois que les gants sont jetés, on doit laisser les joueurs se battre parce que sinon, ils ont comme on a vu plus tôt cette saison avec Dion Phaneuf et Jérôme Higginla, ben les joueurs ont l'air de deux vrais fous sur la glace en train de se regarder. Donc, pour moi, les bagarres dans le hockey, ça a encore sa place. Je pense qu'il n'y a aucun amateur de hockey qui va dire qu'il trouve ça désagréable d'avoir une bagarre. C'est vrai que des fois, ça finit tristement avec des joueurs qui sont mis KO, des joueurs qui restent attendus sur la patinoire, des joueurs qui ont des blessures. On a vu beaucoup de documentaires qui parlaient de joueurs avec des problèmes après carrière, des goons de l'époque. Mais je pense qu'on sent que ces gars-là font. Même eux désirent les garder, la majorité des joueurs. Je pense qu'on doit continuer de développer un système pour encadrer les bagarres, mais tout en les conservant dans le jeu. Maintenant, parlons de la Ligue nationale de football. La NFL nous a offert du très beau spectacle depuis le début de la saison, puis j'avais envie de vous faire un tour d'horizon, puisque j'ai pas parlé de ça la semaine passée. Donc, je vais faire le tour des différentes conférences, des différentes divisions de la Ligue. Puis je vais vous donner mes équipes, mes analyses sur les différentes équipes qui composent ces divisions-là. Fait qu'on va commencer par le AFC East. menée par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui sont considérés par plusieurs comme l'équipe la plus dominante depuis le début de la saison dans la Ligue nationale de football. Les Patriots ont une fiche de 7-2. Ils ont connu une légère baisse de régime en milieu de saison. Les analystes se demandaient ce qui se passait avec Tom Brady, mais ça s'est replacé immédiatement. Puis depuis ce temps-là, ben, l'équipe domine totalement ses adversaires. Après les Patriots, on a les Bills de Buffalo, on a les Dolphins de Miami, et pour finalement compléter la conférence, on a les Jets de New York qui en arrachent totalement. Les Jets qui vont probablement congédier Rex Ryan, je l'espère du moins. Ils vont nulle part depuis quelques saisons, les Jets. On a eu les débats avec Sanchez. Maintenant, Geno Smith ne semble pas être le joueur prometteur qu'on pensait qu'il allait devenir. On a Michael Vick comme backup qui fait pas la job non plus. Donc, les Jets, une équipe relativement décevante cette saison. Et je pense pas que ça va s'améliorer d'ici la fin de la saison régulière. Passons maintenant à la conférence AFC North. Il s'agit de la meilleure conférence depuis le début de la saison dans la NFL. Toutes les équipes ont au moins deux matchs au-dessus de 500. Présentement, c'est les Browns de Cleveland qui sont premiers avec 6 victoires, 3 défaites, suivi des Bengals à 5-3, des Steelers à 6-4 et des Ravens à 6-4. Ça va être intéressant de voir quelle équipe va ressortir de AFC North. Selon moi, les Steelers de Pittsburgh vont remporter cette division-là. Big Ben est tout simplement en feu. C'est une machine à lancer les passes de toucher depuis quelques semaines. J'ai bien hâte de voir ce qui attend le AFC North d'ici la fin de la saison, mais ça risque d'être très important. Je vous conseille de regarder cette division-là. C'est vraiment pas gênant ce qui se passe de ce côté-là. Si on s'en va dans le AFC South maintenant, les Colts d'Indianapolis sont premiers avec une fiche de 6-3, suivi des Texans, des Titans et des Jaguars de Jacksonville. Les Colts qui ont une très belle équipe, Andrew Luck a une très bonne saison encore une fois. Je pense que ce jeune-là démontre que c'est un carrière élite dans la ligue. Ce après seulement quelques saisons comme partant chez les Colts. Une très bonne équipe à surveiller dans l'association américaine, les Colts. Pour ce qui est des Jaguars, ils sont derniers avec 1-9. Je pense que les Jaguars ont une saison en dents de scie à oublier. Fait partie d'une des équipes du bas de classement. Donc, saison désastreuse pour les Jaguars de Jacksonville. Si on s'en va du côté de l'AFC West maintenant, les Denver Broncos sont premiers. C'est pas surprenant, les Broncos avec Peyton. Peyton toujours aussi excellent malgré l'âge. Fiche de 7-2 jusqu'à présent. Je pense que les Broncos ont une des équipes les plus menaçantes du circuit. Puis, ils peuvent aspirer à une deuxième finale du Super Bowl consécutive. Je pense que les Broncos et les Patriots vont être les deux équipes à surveiller dans l'américaine pour les prochaines séries éliminatoires. Derrière les Broncos, on a les Chiefs de Kansas City à 6-3, les Chargers avec un début de saison, ça s'est calmé à 5-4, et les Raiders de Oakland qui n'ont pas encore connu la victoire cette saison. Les Raiders sont 32e sur 32 dans la ligue, et je pense que c'est tout simplement une saison désastreuse pour les Raiders qui n'ont tout simplement pas une formation assez puissante pour rivaliser avec le reste des équipes. Si on s'en va dans la nationale maintenant, le NFC East, les Eagles de Philadelphie qui ont son premier de cette division-là avec une fiche de 7-2, suivi des Cowboys avec 7-3. Et les Cowboys, malgré tout le mal qu'on a dit de Tony Romo au courant des dernières saisons, je pense qu'il a fait taire beaucoup de ses détracteurs cette année, Tony Romo, et l'équipe en tant que telle. La meilleure ligne offensive du circuit, les Cowboys de Dallas. Et je pense que pour une des rares fois, Tony Romo mène ce club-là là où il devrait être. Puis avec une fiche de 7-3, sont en bonne posture, une bonne compétition par exemple avec les Eagles pour remporter la division Est de la Nationale. Si on s'en va maintenant dans le Nord de la division Nationale, mes Lions de Détroit sont premiers avec une fiche de 7-2. Suivi des Packers à 6-3 et des Vikings à 4-5 et des Bears à 3-6. Donc, les Lions, qui, après plusieurs années à récolter des bons joueurs au repêchage, semblent enfin comprendre le concept d'équipe amené par le nouvel entraîneur et promettent de belles choses pour le reste de la saison. Je pense que mes Lions, j'ai tombé en amour avec cette équipe-là. Pendant leur saison, ils n'ont connu aucune victoire. Et maintenant, depuis ce temps-là, je les suis année après année. Et c'est la plus belle formation des Lions que j'ai vue. Une offensive des plus explosives. Selon moi, la meilleure, sinon dans les meilleures offensives du circuit. On a Matthew Stafford, le carrière, repêché premier de son année, qui fait un bon boulot. On a Calvin Johnson, qui est le meilleur receveur de la ligue, qui est tout simplement incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'en venir, de bonnes choses qui s'en viennent pour le Lyon. Puis je pense que c'est ça fait longtemps que ça n'a pas été autant un bon temps pour devenir un fan des Lions de Détroit que ça. Si on regarde le dernier de la division, ben, les Bears de Chicago de Mark Trestman, l'ancien entraîneur des Alouettes de Montréal, rien ne va plus pour Mark Trestman. Dans un sondage effectué dans le Chicago Tribune, plus de 50% des fans des Bears voulaient le congédiement de Mark Trestman sur le champ. Je pense que Trestman, ses jours sont comptés. On va peut-être lui donner jusqu'à la fin de la saison. Mais Mark Trestman, vraisemblablement, ne sera pas de retour à la barre des Bears si les choses ne changent pas. Et je mets le blâme surtout sur Jay Cutler. Je pense que ce gars-là n'a jamais produit à la hauteur de son talent et est une des raisons pourquoi les Bears de Chicago sont derniers de leur division. Si on passe maintenant dans le sud de la ligne de la conférence nationale, les Saints sont premiers avec 4-5. C'est la seule division que le meneur de division a une fiche en bas de 500. Les Saints, que beaucoup ont choisi d'ailleurs pour se rendre jusqu'au Super Bowl cette année, ont connu un début de saison difficile. Je pense que les Saints ont des questions à se poser s'ils veulent redevenir contender aspirant pour le trophée Vince Lombardi. Derrière eux, on a les Panthers de la Caroline qui ont connu un bon début de saison. 4 défaites consécutives, je pense que ça ne va pas venir. On doit se poser des questions de ce côté-là. Suivi des Falcons et les Buccaneers qui n'est tout simplement pas dans la course cette année. Surprise, pour ma part, dans l'Ouest de la Nationale, les Cardinals de l'Arizona qui ont une excellente saison avec 8 victoires et 1 défaite. Ils viennent de perdre leur corps arrière partant pour le reste de la saison. Ça va faire très mal. Ils ont une des cédules les plus difficiles dans le dernier droit de la saison, les Cards de l'Arizona. Ils affrontent presque seulement les équipes gagnantes d'ici la fin. Donc, je pense que cette fiche-là va diminuer. Mais faut donner à César ce qui revient à César, les Cardinals de l'Arizona qui font un excellent boulot depuis le début de la saison. Derrière eux, les champions en titre, les Seahawks de Seattle avec une fiche de 6-3. Bonne saison. On s'attendait peut-être à plus, mais on sent que la fatigue du Super Bowl rattrape les Seahawks. Donc, une saison parsemée de haut et de bas, mais avec 6-3 quand même, on se débrouille bien. Les 49ers, qui ont avec 5-4, on ne sait pas s'ils vont faire les séries. Ça me surprendrait que 3 équipes sortent de l'ouest de la nationale. Puis, ben, pour finir, les Rams de Saint-Louis avec 3-6, qui connaissent, comme à l'habitude, une saison plutôt ordinaire. Ça complète pas mal le tour du classement de la NFL. J'espère que votre équipe préférée va bien. La mienne, c'est le cas. Tout va pour le mieux présentement pour mes Lions. Donc, ça va être intéressant de voir qui va sortir champion des divisions et qui va se démarquer dans le dernier droit de la saison. Il reste environ 6-7 semaines à la saison. Donc, même 7 semaines, je crois. Donc, on a encore beaucoup de temps pour redresser des équipes en difficulté, puis ben, les équipes qui sont au sommet ont le temps de baisser quelque peu dans le classement. Parlons maintenant de boxe, parce que la semaine passée, je vous parlais d'un combat très attendu en fin de semaine entre Bernard Hopkins et Sergey Kovalev. Ben, on n'a pas été déçus les amateurs de boxe, parce que ça a été un excellent combat, bien qu'il ait été dominé du début à la fin par Sergey Kovalev. Kovalev est arrivé dans ce combat-là prêt, a mis au tapis Bernard Hopkins au premier round, puis a gardé le contrôle jusqu'à la fin jusqu'au son de la cloche au 12e round. Je dois cependant lever mon chapeau à Bernard Hopkins parce que ce gars-là a fait preuve d'un courage et d'une persévérance exemplaire dans le combat de samedi. Je pense que très tôt dans le combat, il a compris que Kovalev avait les devants, qu'il ne pouvait plus revenir. Je pense pas que Bernard Hopkins a la puissance pour mettre le KO à Sergey Kovalev d'un seul coup de poing. Mais ça n'a pas empêché Hopkins de se présenter la tête haute, ronde après ronde, d'encaisser des coups. Lui-même l'a dit qu'à la fin, au 12e round, il s'est laissé frapper et il voulait donner un spectacle à la foule. On peut reprocher à Hopkins un certain manque d'offensive dans ce combat-là, mais je pense qu'à 50 ans, la performance qu'il nous a offert samedi, c'est loin d'être gênant. Puis je pense que tout amateur de boxe doit remarquer à quel point ce gars-là est un boxeur incroyable. Je pense que Bernard Hopkins, moi, quand ce combat-là a terminé, j'ai presque été plus impressionné parce que Hopkins a fait de la façon dont il a géré cette défaite-là que par la façon dont Kovalev a gagné. Ceci étant dit, j'enlève rien à Sergey Kovalev. Il est justement aujourd'hui entré dans le top 10 des combattants livre pour livre dans la boxe professionnelle. Et ce gars-là a un avenir devant lui en étant champion. Je pense que c'est un des bons combattants qu'on a eu dans cette catégorie-là. Sérieux candidat au titre de boxeur de l'année, Sergey Kovalev, sans aucun doute. Je pense que faut surveiller ce gars-là parce que c'est une des étoiles montantes de la boxe professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui attend nos combattants québécois, Jean-Pascal, Lucien Boutet? Je suis pogné justement cette semaine en entrevue Lucien Boutet dans son camp aux Philippines, lui qui est rendu avec l'entraîneur de Manny Pacquiao, Freddie Roach. Il semblait apprécier l'expérience. Il disait que s'entraîner avec Manny Pacquiao, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les entraînements sont tout le temps remplis. Pacquiao est une vraie vedette dans son pays, aux Philippines. Puis je pense que Lucien Boutet, ça va lui permettre de grandir, de côtoyer un grand de la boxe comme Manny Pacquiao. Je pense que Lucien Boutet peut revenir en force dans son prochain combat. C'est le temps ou jamais. Parce que le fait qu'un entraîneur de la trempe de Freddie Roach veuille travailler avec Lucien Boutet, ça nous indique que ce gars-là, qui est un des entraîneurs les plus respectés dans son domaine, a vu quelque chose en Lucien Boutet que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc, on espère que Lucien va se redresser dans son prochain combat, puis qu'éventuellement, on va avoir sa chance pour un combat de championnat du monde. Jean-Pascal, maintenant, on a entendu que Jean Bédard, son nouveau promoteur chez Interbox, est en pourparlers avec le clan Kovalev pour organiser un combat. Je pense que c'est ce qui attend. Je pense que ce serait la meilleure option pour Jean-Pascal, lui qui a tenté de provoquer Adonis Stevenson. Il ne s'est rien passé de ce côté-là. Jean-Pascal aurait une excellente chance d'avoir un combat championnat du monde avec Sergey Kovalev. Je crois pas que présentement Jean-Pascal est à la hauteur de Kovalev, mais je pense que ça pourrait être un bon combat, puis que les amateurs québécois auraient enfin de quoi se réjouir au niveau de la boxe et de la carrière de Jean-Pascal. Voici ce qui conclut notre tour d'horizon sur la boxe en général. Maintenant, parlons soccer, parce que présentement, la Ligue des champions de l'UEFA bat son plein. En Europe, on a aussi les différentes ligues qui sont en activité. Et on a les qualifications pour l'Euro 2016 en France qui sont entamées. Parlons de Ligue des champions, parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes cette année. Je pense que les champions de l'an passé, le Real Madrid, sont les favoris à mes yeux pour répéter l'exploit. Cette équipe-là, c'est une équipe très bien rodée, c'est une machine. Je pense que peu d'équipes en Europe peuvent espérer rivaliser avec le Real. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, on a un Karim Benzema extrêmement en forme présentement, ce qui n'est pas toujours le cas, qui n'a pas toujours été le cas dans les dernières années, mais présentement, Karim Benzema remplit le but, et c'est ce qu'on attend de lui en pointe du Real, avec un milieu de terrain extrêmement bien rodé avec Lucas Modric, et le nouveau venu Toni Kroos. Je pense que le Real Madrid a toutes les armes disponibles pour répéter l'exploit d'être champion d'Europe. Maintenant, on a le Barça qui est là à chaque année, l'éternel rival du Real. Léo Messi qui connaît une très bonne saison, a égalisé le record de Raúl pour le plus de buts de l'histoire de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo est un but derrière Léo Messi, donc ça va être à voir qui va être le premier à surpasser Raúl. On sait que Messi et Cristiano Ronaldo se livrent une guerre sans relâche, autant dans la Ligue espagnole que dans la Ligue des champions, donc ça va être intéressant de suivre ça. Parmi les autres équipes à surveiller, on a toujours le Bayern de Munich, une puissance en Allemagne année après année. On a le Borussia Dortmund, une autre équipe allemande qui fait très bien en Ligue des champions, en arrache cette saison en Ligue allemande. Donc, on semble concentrer notre énergie sur la Ligue des champions et ça se passe pour le mieux présentement. Dans les équipes anglaises maintenant, qui peut aspirer à une victoire de la Ligue des champions? Bien, à part Chelsea, l'équipe dirigée par José Mourinho, je ne vois pas quelle autre équipe anglaise pourrait éventuellement remporter le précieux trophée de la Ligue des champions. Chelsea est vaincue jusqu'à présent en première ligue anglaise, la seule équipe n'ayant pas subi la défaite. Plusieurs experts pensent peut-être même qu'il pourrait réussir l'exploit d'une saison parfaite sans perdre, c'est-à-dire seulement des victoires et des matchs nuls. Personnellement, je pense que Chelsea vont finir par échapper un match au cours de la saison, mais un match ou deux, ça va se limiter à ça parce que Chelsea est vraiment une coche au-dessus du reste des équipes anglaises. Si on regarde la Ligue d'Italie, ben, la Juventus de Turin répète année après année des exploits incroyables dans la Ligue italienne, mais le soccer italien a pris du recul considérable sur les autres ligues dans le monde. Et je pense pas que la Juventus de Turin, qui est la meilleure équipe italienne présentement, peut aspirer à remporter la Ligue des Champions. Je pense que le soccer italien doit se poser des sérieuses questions. On semble opter plus pour devenir une ligue de formation, envoyer nos bons joueurs dans les grands clubs par la suite, alors qu'avant on était une ligue qui amenait beaucoup de jeunes joueurs en plein potentiel des autres ligues pour les faire émerger en ligue italienne. Maintenant, on semble vouloir exporter plutôt qu'importer les talents. Donc, un changement de mentalité dans la ligue italienne, mais ça paraît dans les performances des équipes en Ligue des Champions. Maintenant, je vous donne ma liste des rencontres, des événements sportifs à surveiller pour la prochaine semaine, que ce soit dans les différentes ligues. Donc, sortez votre calepin, je vous donne les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine dans le monde du sport. Dans la Ligue nationale, demain soir, bon vieux match de rivalité entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston. Je pense qu'on le sait tous, il n'y a jamais un match entre ces deux équipes-là qui nous déçoit. Donc, demain soir, à RDS, Canadien contre Boston. Sinon, mardi, il y a un match très intéressant dans la Ligue nationale de hockey entre les Ducks d'Anaheim et les Flames de Calgary. Deux des meilleures équipes du circuit présentement. Jonas Siler qui va affronter son ancienne équipe. Donc, ça devrait être un très bon match en début de semaine, mardi, la semaine prochaine. Dans la NFL, j'ai retenu deux matchs pour vous. En 14h30 dimanche, on a les Lions de Détroit qui ont une fiche de 7-2 qui vont affronter les Cardinals de l'Arizona avec une fiche de 8-1. Donc, deux des meilleures équipes du circuit qui vont s'affronter. Et en soirée, on a un match toujours excitant entre les Colts d'Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, Andrew Luck contre Tom Brady, ça va être à regarder dimanche soir. Dans la NBA, demain soir, match important pour les Raptors de Toronto. Ils vont pouvoir tester leur formation qui ont un début de saison canon avec 6 victoires, 1 défaite contre les puissants Bulls de Chicago. Donc, un très bon test pour les Raptors de Toronto demain. Ça devrait passer sur TSN, donc je vous invite à regarder ça. Ça complète ma liste de matchs à surveiller dans le monde du sport cette semaine et ça complète également l'émission d'aujourd'hui. En mon nom, je vous remercie d'avoir écouté cette deuxième édition du Sportif de Salon. Je vous invite à vous abonner à la chaîne sur iTunes et je vous souhaite de beaux moments dans le monde du sport cette semaine pour qu'on puisse en jaser la semaine prochaine. Donc, merci tout le monde.